Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui ne s'est pas un jour désolé de ce qu'il est? J'ai plein d'énergie, mais j'ai tendance à marcher sur les autres. Je suis rêveur idéaliste, mais je ne fais pas grand-chose. Je passe mon temps à partager mes sentiments avec les autres, mais où cela me mène-t-il? Bref, pas facile de s'aimer en ce jour où l'on célèbre l'amour. Pour nous aider à commencer à nous aimer nous-mêmes, cette émission sur les tempéraments. Tous nous aurions un tempérament type et il n'y aurait pas de quoi s'en désoler. Il s'agirait seulement d'une réalité à accueillir et à transformer. Explication. Tempérament, comment en tirer le meilleur? Ce matin, j'ai comme invité Anne de la Doucette, j'allais dire prêtre parce que je reçois un jour sur deux un prêtre, mais non, cofondatrice pardon, de la formation Passeur d'Hommes. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Vous intervenez aussi de temps à autre dans l'émission Le Grand Débat, émission donc d'actualité et une émission sur les tempéraments ce jour qui tombe fort bien, je le dis parce que je me suis rendu compte qu'on avait de la chance, c'était pas prévu. En cette Saint-Valentin, c'est bien de commencer par s'aimer soi-même. Non ?
Absolument, parce que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est pas possible sinon.
Alors, cette émission donc, qui est partie pour vous comme d'une révélation, vous avez assisté à une conférence d'un certain Alexandre Dianine Havard, qui a écrit de nombreux livres, qui est donc, on va dire, coach ou en tout cas à la tête d'un institut de leadership. Et qui a écrit entre autres un livre qui s'appelle « Du tempérament au caractère ». Avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi en fait ça vous a autant frappé, cette découverte de l'importance des tempéraments?
D'abord parce que l'homme est assez impressionnant, c'est un franco-russe qui a une forte personnalité, mais surtout parce que...
Et un physique,
mais ouais. sympathique, plein d'énergie. On sent qu'il aime l'homme. Les hommes, les personnes. C'est surtout qu'en sortant de cette conférence, je me suis dit, je vais pouvoir enfin apprendre à savoir qui je suis et que je n'aurai pas à culpabiliser. Vous savez, souvent on culpabilise, on fait ça et on se dit, oh, on a un sentiment de culpabilité, c'est très, très chrétien souvent. Et non, parce qu'on n'a pas à culpabiliser de notre tempérament. Et ça a été pour moi une délivrance en me disant, j'ai ce tempérament. Et on me donne des clés pour le développer, pour en faire le meilleur. C'est un peu tard, au bout de 55 ans, mais on va essayer de faire ce qu'on peut et de transmettre aux autres, parce que je pense que c'est vraiment des outils qui étaient transmis auparavant et qu'on ne transmet plus et qui ont besoin, spécialement aujourd'hui dans notre société, on a vraiment besoin de les connaître.
Alors, vous insistez, donc vous avez donné cette formation dans le cadre de cette conférence dans le cadre de cette formation Passeur d'Hommes, donc formation en anthropologie chrétienne qui est donnée à Toulouse, mais pas que, ailleurs en France. Vous avez, si je ne me trompe pas, commencé par dire justement quelle était l'importance de la découverte de ces tempéraments et de savoir se forger des bons et des justes caractères aujourd'hui. Pourquoi est-ce que pour vous, il y a une urgence particulière?
Parce que jusqu'à présent, il y a à peu près 50 ans, la société était encore structurée, ou du moins les valeurs étaient encore présentes dans la société, et nous étions encore portés, que ce soit les valeurs chrétiennes ou citoyennes, nous étions encore portés par ces valeurs. Or, elles étaient de deux types, ces valeurs. Il y avait l'héritage gréco-romain avec les vertus, avec les devoirs du citoyen, et puis l'héritage de la loi naturelle qui était un ensemble de règles physiques et morales sur la vie. Le cycle de la vie, on se liait, une partie de nos lois était liée à la nature, ce que reprend d'ailleurs le pape dans l'écologie intégrale, l'écologie humaine. Donc ces lois étaient imprégnées notre société. Le christianisme les a repris. On avait les 10 commandements, on avait la pratique des vertus, on avait saint Thomas d'Aquin qui a repris toutes ces notions de la politique de chez les Grecs. Tout ça, notre société était profondément ancrée là-dedans. Et depuis 50 ans, en 1789, avec la Révolution, bien sûr, on est passé des notions chrétiennes avec une notion de l'éternel qui s'est plongée sur les droits de l'homme et des devoirs du citoyen. Et puis, petit à petit, depuis 50 ans, toutes ces valeurs, toutes ces notions ont disparu de notre société. Ça a d'abord été les droits de l'homme, et on n'a plus parlé des devoirs du citoyen. Et puis c'est devenu un droit à l'enfant. et on n'a plus de devoir, hein, on n'entend plus parler de devoir, mais le devoir, ça structure une société, ça rassemble une société. Et puis la loi naturelle qui, depuis 20 ans, est terriblement attaquée, que ce soit sur la vie, on remet en cause la naissance avec l'avortement total, la fin de vie avec l'euthanasie, on ne respecte pas le cycle de la nature, et puis aussi la famille. Parce que finalement, la famille, elle est montée sur la loi naturelle. On vit bien pour une famille, il faut un père et une mère. Chez les Romains, c'était repris avec l'autorité du père. Toutes ces structures sont en train de se déconstruire. Et du coup, nous n'avons plus de socle commun. Nous ne savons plus avoir un bien à la recherche. Nous n'avons plus rien qui nous rassemble tous. Et quand on n'a plus rien qui nous rassemble tous, on ne peut pas définir une finalité de société. Le progrès, l'Europe, ce ne sont pas des finalités de société, ce sont juste des outils. Donc, aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que les gens se connaissent pour être acteurs et remettre par eux-mêmes les valeurs dans leur société au quotidien.
Alors, vous citez en introduction, mais je propose qu'on fasse un autre exercice, c'est-à-dire qu'on donnera quelques noms à la fin, d'hommes et de femmes. Allez, on va donner leur nom en teasing, mais les auditeurs comprendront qu'on ne les détaille pas aujourd'hui. Vous citez par exemple Maria Callas, Thomas More, le professeur Lejeune ou l'apôtre Saint Paul, en disant que ce sont des hommes et des femmes qui avaient des tempéraments, et donc il n'y a pas à culpabiliser d'avoir un tempérament, mais avec du travail et l'aide de la grâce, ils ont développé des grands caractères et se sont devenus des grands hommes et des grandes femmes. Et comme vous le dites, au final, une société, c'est une addition d'hommes qui sont appelés à devenir des grands hommes et des grandes femmes. D'ailleurs, Alexandre Dianine Havard a un mot, il invite à la magnanimité. Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est que la magnanimité, oser voir grand pour l'homme, c'est ça?
Absolument. La magnanimité, c'est oser voir grand pour l'homme. C'est une des vertus du leader. C'est que c'est pas une petite maison avec une petite vie, avec une petite voiture, avec une petite famille. Non, on voit grand, on voit loin. On veut entraîner la société vers le plus haut pour que l'homme soit pleinement homme. Parce que l'homme a été quand même créé à la ressemblance de Dieu. Et il a été créé pour le beau, le vrai, le bien. Et que toute notre vie, nos actes doivent aller vers ce beau, ce vrai, ce bien. Et c'est voir grand. Ressembler à Dieu, c'est voir très grand.
Alors, vous commenciez votre conférence, puisqu'on va s'appuyer sur elle, en faisant un distinguo entre les hommes et les animaux. C'est aujourd'hui, même pour certains, difficile de faire cette distinction, mais bon, on va partir du principe que pour les auditeurs, il n'y a pas de souci. L'homme est donc la seule créature que Dieu a voulu pour lui-même, vous venez de le dire. Les animaux sont régis donc par les réflexes et les instincts, mais il en est autrement de l'homme, expliquez-nous.
Oui, l'homme a une capacité supérieure qui le distingue totalement des animaux, c'est qu'il il a l'intelligence. L'intelligence, ça vient du mot latin interlego, qui veut dire faire le lien. Il fait la même chose entre sa mémoire, ses sensations, et en fait, il utilise sa raison pour analyser les composantes. Le cerveau, il travaille en abstraction, et il est capable d'analyser tout ça. Et c'est là où le langage est très très important. Nous avons le langage. Le langage permet de mettre des mots sur les choses, permet d'étudier nos passions, de comprendre nos passions, de comprendre ce qui nous anime, de capter l'extérieur et par notre intelligence de les travailler et de les structurer et de prendre des décisions.
L'intelligence et la volonté.
Et la volonté. Voilà. Il y a le char d'Aristote. Le char d'Aristote, il est très...
Allez-y, prenez l'exemple du char d'Aristote.
Moi, j'aime beaucoup cette histoire de char d'Aristote parce qu'il est très parlant. En fait, on est animé, notre tempérament, il va être animé par des passions. Les passions irascibles et les passions concupiscibles.
Alors, les passions irascibles, c'est donc l'espoir et le désespoir, la peur et le courage, la colère. Les passions concupiscibles, ça serait donc l'amour, la haine, le désir, l'aversion, la joie, la peine. Donc, on comprend
absolument
un peu la différence déjà.
Vous voyez. Et donc, ces passions... Et heureusement qu'on a ces passions parce que sinon, on serait des mollusques. Il faut bien que quelque chose nous anime. Donc, ces passions nous animent.
Il n'y a pas de risque pour vous, en tout cas. Allez-y, continuez. Le char d'Aristote.
Surtout, ce sujet me passionne. Donc, ces passions nous animent. Hein, elles nous animent. À nous, donc, le char d'Aristote, c'est les passions, c'est les chevaux. Il y a un cheval blanc, un cheval noir. Les passions concupiscibles, les passions irascibles. Et puis, il y a l'homme. L'intelligence, ça va être le cocher. L'homme, ça va être l'homme, en fait, l'homme et l'intelligence. Et puis, avec les rênes de l'intelligence, avec les rênes, l'homme va guider ses passions. Elle va les ralentir, il va les faire avancer, il va les conduire, il va les structurer, ses passions.
Avec la volonté, donc.
Ça, c'est avec l'intelligence
aussi. Avec l'intelligence.
Et la raison. Et avec le fouet...
La volonté, c'est le fouet.
Qui va faire avancer le char. Et je trouve ça très, très parlant. Vous voyez, on se sent animé par des passions et hop, l'intelligence, la raison se met en marche. Est-ce que j'agis ainsi? Non. Est-ce que je prends le temps de réfléchir? Est-ce que j'avance tout de suite? L'intelligence est cette force incroyable qu'a l'homme qui fait sa vraie liberté. Parce qu'on est libre. C'est là où réside notre liberté. C'est on agit, on n'agit pas.
À propos de la volonté, vous dites la chose suivante. Jean-Paul II, enfin vous citez Jean-Paul II qui a défini la volonté comme la capacité d'aimer le bien. Voilà, ça vaut le coup aussi de redire ça. Il y aurait deux écueils dans pareille situation. Alors peut-être deux chemins à ne pas prendre avec ce fameux char d'Aristote. Je rappelle, le cocher, l'intelligence. Le fouet, c'est la volonté. Et il y a les chevaux blancs et noirs des passions, avec deux grandes familles de passions, l'irascibilité, l'espoir, le désespoir, la peur, le courage, ou la colère, et les passions concupiscibles. C'est des mots compliqués, mais derrière, c'est l'amour et la haine, le désir, l'aversion, la joie et la peine. Je le redis par pédagogie. Quels seraient ces deux écueils? J'ai compris que ce serait soit une trop grande forme de passivité, soit au contraire une forme de volontarisme.
Ah oui, il y a deux grands dangers. C'est de dire... Mon tempérament, j'y peux rien, c'est un don. Et c'est vrai que c'est la loterie. Chacun a un tempérament différent. On le reçoit, ça, quand on est chrétien, on croit que c'est un don de Dieu. Il y en a qui ont peut-être apparemment plus de talent que d'autres. C'est comme ça. Donc, se dire un peu comme Gaston Lagaffe, j'y peux rien, je suis comme ça, et se laisser couler dans, et ne se laisser ses passions se dominer par ses passions. Mes désirs, c'est un peu ce qui arrive un peu aujourd'hui, d'un certain côté. J'ai envie d'un enfant, donc mon désir d'enfant passe au-dessus de l'intérêt du bien commun des autres. Ça, c'est un peu ça. Ça, c'est le premier danger. L'autre danger, c'est de dire, ah ben non. Non, non, mais ce tempérament, il ne me plaît pas du tout. Non, non, je ne veux pas, je suis... Non, c'est pas ce que je veux être, je suis colérique, ben non, je veux être flegmatique. Et d'utiliser toute sa volonté pour essayer de changer de tempérament. Et ça ne marche pas. Ça, il faut apprendre à s'aimer tel qu'on est parce que ça vous revient dans la figure comme un boomerang. Et on voit beaucoup de gens qui ont essayé d'être parfaits, qui ont coché toutes les cases, et puis à 50 ans, tout explose.
Voilà.
C'est vraiment le danger.
On ne donnera pas de détails, mais non. Je pense que les trois petits points sont parlants. Il y a autre chose pour finir cette introduction. Allez, quand même, j'avais voulu vous poser la question à un moment. Alexandre Dianine Havard propose un test. Alors, je ne vais pas vous demander de nous dire quel est votre tempérament. Et on parlera des quatre grands tempéraments tout à l'heure. Mais est-ce que souvent, on a tendance à ne pas aimer en fait, son tempérament? C'est-à-dire, quand on fait le test, donc on verra, soit imaginons que je sois flegmatique ou colérique, le premier réflexe c'est de se dire oh là j'ai pas envie d'être comme ça, et là aussi quelque part il faut apprendre en fait à s'accepter, à aimer ce qu'on est.
Alors oui, au début c'est un peu dur d'entendre ce qu'on est.
De se voir dans la glace.
Oui, de se voir dans la glace, on se dit non c'est pas moi, c'est pas possible. Et puis après, ce que j'aime dans cette présentation justement de la personne par Alexandre Dianine Havard, c'est que on sait qu'on est libre et qu'on a les outils pour en changer. On voit enfin, on a enfin les spots qui se mettent sur notre caractère. Et on se dit, bon, ça c'est mes forces. J'ai des forces, j'ai des fragilités, mais ces fragilités, d'abord, il faut que je les aime, parce que je ne les surmonterai pas si je ne les aime pas. Et en plus, on va me donner des outils qui sont les vertus, l'habitus, pour les dépasser. Avec la grâce de Dieu, j'y arriverai peut-être encore mieux, sûrement mieux. Mais je peux les dépasser. Je peux, mais on les gardera toujours, ces faiblesses. On ne faut pas se dire... que c'est gagné, je pratique la vertu pendant 15 jours et hop, ça y est, la vertu de prudence pendant 15 jours et je vais être prudent. Non, il va falloir craquer toute sa vie parce qu'on a quand même le péché originel, parce que c'est pas évident. Mais on sait qu'on peut progresser et que rien n'est perdu et que c'est formidable quand même de se dire. On est libre, là est notre liberté. D'être une belle personne, c'est notre liberté. C'est vraiment un domaine dans lequel on a toute notre liberté. Et c'est là...
Dernière question avant qu'on fasse une première pause. Vous avez cité le mot habitus. Est-ce que vous pouvez finir là-dessus, expliquer ce qu'est l'habitus et puis, on va dire, la marge de manœuvre que ça nous ouvre, ou la perspective, ou l'horizon?
Alors, l'habitus, c'est pas comme une habitude, c'est pas je vais acheter mon pain tous les matins. L'habitus, c'est le fait de pratiquer quelque chose de bien ou quelque chose qui vous fait progresser régulièrement et qui vient comme une seconde personne. C'est un terme médiéval. Et ça devient comme une seconde personne. Thomas d'Aquin disait que l'habitus suit l'être. L'agir suit l'être. C'est-à-dire que Par exemple, moi j'ai donné cet exemple du père de famille qui arrive avec des enfants petits, peut-être que vous avez ça Emmanuel, le matin et au petit déjeuner vous avez envie d'être tranquille et systématiquement il y a un chocolat renversé, du bruit, l'autre qui pleure, machin, vous avez envie de les fracasser.
Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez.
Fracasser, moi j'ai vécu ça et se dire tous les matins...
Ah vous aussi vous avez envie de les fracasser.
J'ai plus envie mais j'ai eu quelquefois envie. Bon, et tous les matins on se dit... tous les matins, je vais descendre et quoi qu'il arrive, je garde mon calme et je souris. Et ben, moi, quand j'ai dit ça, j'ai vu des pères sourire dans l'assistance. Donc, je me suis dit, c'est du vécu. J'ai pas été le seul à le vivre. Et du coup, et ben, petit à petit, ça devient une habitus. C'est un peu comme les gammes. Vous savez, quand vous jouez du piano.
J'allais dire, vous citez aussi les
gammes.
Pianistes.
Et ben, avant de jouer une valse de Chopin, on fait un certain nombre de gammes. Et puis après, on entend la valse de Chopin, on n'entend plus les gammes. Ça devient comme une seconde nature, hein.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver.
C'est important parce que Paul Bourget disait que quand on ne vit pas comme on pense, on finit toujours par penser comme on vit.
Allez, redites-nous ça doucement.
Quand on ne vit pas comme on pense, on finit toujours par penser comme on vit. C'est-à-dire que...
Voilà.
On peut dire des beaux discours.
Entre mais... mollusque ou devenir un grand homme, ce matin avec Anne de Ledoucette, on n'a pas le choix. On va faire une première pause, pardon. Et après, on va vous retrouver donc, pour parler de ces quatre grands tempéraments, mélancolique, flegmatique, colérique et sanguin. Quatre grands types et à l'intérieur de ça, leurs forces et leurs faiblesses. Et à la fin de l'émission, on essaiera de voir justement comme quelles vertus chaque caractère, chaque tempérament appelle pour développer des grands et beaux caractères et peut-être, qui sait, devenir un Saint Paul, une Marie Callas, un Thomas More ou un professeur Lejeune.
Thank you.
silence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Tempérament, comment en tirer le meilleur? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. En ce jour de la Saint-Valentin, on commence par essayer de se connaître et de s'aimer soi-même avec Anne de la Doucette, cofondatrice de la formation Passeur d'Hommes, qui a donné cette conférence récemment et qui s'est inspirée d'un ouvrage d'un certain Alexandre Dianine Havard, du tempérament au caractère, comment devenir un leader vertueux. On s'est dit que donc on allait détailler les quatre grands tempéraments que j'ai cités tout à l'heure. Je vais essayer de les redire, voilà, de façon à pas perdre les auditeurs au fur et à mesure de l'émission. Mélancolique, flegmatique, sanguin et colérique. Mais vous vouliez refaire un préambule, Anne, nous dire que quand on parle de vertu aujourd'hui, ça peut sonner très très moraliste et qu'il y a deux écueils à éviter en cette matière. Quels sont-ils ?
Oui, parce que les vertus, quand on parle de vertus, on pense un peu à la morale bourgeoise du 19e, et c'est assez terrifiant, une espèce de carcan qui nous, au lieu de nous libérer, nous emprisonne. Une espèce de règle morale contraignante, et quand en 68 on a vu « il est interdit d'interdire », c'est un peu peut-être contre ces règles morales qui paraissaient entraver la personnalité ou le désir humain. Je crois au contraire que les vertus permettent d'être libres parce qu'elles permettent de dominer nos passions. Et elles sont quatre vertus cardinales qui nous viennent des Grecs, la prudence, le courage, la maîtrise de soi et la justice. Alors, il y a deux écueils dans la pratique des vertus. La pratique, c'est je veux d'abord, pour tout pour un chrétien peut-être, mais pour tout le monde, je le fais pour être une belle personne, que pour moi. Et parfois, c'est très... Le diable se met dans des recoins un peu difficiles, un peu inattendus. Par exemple, si vous dites « je veux aller faire de l'humanitaire parce que je veux développer mon empathie », eh bien, le but n'est pas le bon. Je ne vais pas faire l'humanitaire pour développer mon empathie, pour être une belle personne, pour cocher sur mon CV que j'ai fait l'humanitaire. Je vais faire l'humanitaire pour... enfin, j'aime pas l'expression « faire l'humanitaire », mais je vais à la rencontre des gens qui en ont besoin pour eux. Après, que ça développe mon empathie, c'est une conséquence secondaire qui arrive forcément. Mais le but n'est pas bon. Ça, c'est le problème. Le premier, c'est ce qu'on appelle le socratisme. Le deuxième danger est un peu d'inspiration kantienne, c'est-à-dire je ne vais être
kantienne, donc pour le philosophe voilà. Emmanuel Kant.
Voilà. Je ne vais être que dans le don. Je m'oublie complètement. Je suis que dans le don, que dans le don.
Ce qui peut être aussi un travers de la vie chrétienne. C'est...
Oui, et puis c'est une forme d'orgueil. Ça veut dire que je donne... Mais je suis incapable de recevoir de l'autre. Je me ferme à l'autre. Je me ferme à la relation. Et il y a une espèce de forme de dessèchement qu'on a peut-être justement retrouvé dans cette morale bourgeoise du 19e où on allait voir les pauvres, on faisait le bien, on faisait machin, et on ne faisait que donner, mais on n'était pas capable de recevoir de l'autre. Voilà, ça c'est les deux grands dangers, je pense, de la pratique des vertus.
Alors, introduction faite, quatre grands tempéraments, chacun est orienté, ou en tout cas a une dominante. Pouvez-vous nous dire la dominante de chacun avant qu'on les détaille les uns les autres?
D'abord, absolument. Le colérique, il va être orienté vers l'action. Le mélancolique, il va être préoccupé par l'idée. Il a beaucoup d'idées, le mélancolique. Le sanguin, lui, il vit plus de sa relation avec les personnes. Et le flegmatique, en fait, il déteste le conflit, donc il va à chercher systématiquement le plus possible la paix. C'est quelqu'un qui a besoin d'être en paix. Alors,
allez-y, pardon, vous voulez.
Je crois que c'est important, c'est que notre tempérament, il va nous incliner vers un côté ou un autre. Et c'est avec nous qu'il va falloir essayer de se développer dans le bon sens, dans nos forces, et développer nos forces et réduire nos faiblesses. Et une fois. Oui.
Alors, le colérique donc, est enclin à faire de nombreuses choses, mais il lui coûte de prendre soin des personnes.
Absolument.
Force et faiblesse du colérique. Commençons par les forces.
Alors, il va être actif, il va être énergique, stable. Le colérique a confiance en lui, il est enthousiaste. Il est entrepreneur, il est efficace, c'est un bon manager. Il assume bien le pouvoir, il est vraiment tourné vers l'action, c'est un speedé. Hein. Il est sûr de lui, mais il n'aime pas trop délibérer. Alors par contre, c'est
un brin autoritaire.
Un brin autoritaire. Et du coup, les faiblesses, ça va être les revers de ses forces. C'est-à-dire qu'il va être un peu enclin et à la colère quand on ne lui réagit pas comme il veut. Il va parfois trop vite. Il peut tomber rapidement dans l'activisme et il va s'engouffrer dans la confrontation. La confrontation ne lui fait pas peur, contrairement au flegmatique.
Voir, il aime ça, non? Ou...
Il aime ça. Je pense que c'est une question aussi de pouvoir sur l'autre. Hein. Dans la direction des personnes, il va avoir du mal à respecter leurs sentiments des autres, à les responsabiliser et à les servir.
Alors, on pourrait enchaîner donc par les vertus, prudence, courage, maîtrise de soi et justice, en voyant comment un colérique peut travailler à passer justement d'un tempérament et d'un caractère. Mais on a choisi comme méthodologie d'essayer d'abord de détailler les quatre tempéraments. Peut-être y en a-t-il qui suivent l'émission attentivement et ont-ils envie d'abord de savoir un peu dans quelle case ils sont, même s'il faut prendre un peu plus de temps probablement et se faire accompagner pour savoir ça. Alors le deuxième tempérament, ça serait donc le mélancolique. Alors le mélancolique, la baseline est la suivante de votre conférence. Le mélancolique est enclin à contempler de belles idées, mais il lui coûte de les mettre en pratique. Même question, force et faiblesse du mélancolique.
Alors ses forces, c'est qu'il a une réactivité tardive. Contrairement au colérique, il prend le temps. Il est prudent. Il prend le temps de réfléchir. Il a une réactivité qui est profonde et stable. Il a beaucoup d'idées. Il est enclin à la contemplation, il cherche la perfection en toute chose. Le contemplatif, le mélancolique, il est fidèle, il est patient, il est persévérant et il affronte en fait les difficultés avec pas mal d'aplomb. Hein. Ça ne le gêne pas les difficultés. Les difficultés ne le gênent pas quand il les maîtrise. Il est indépendant d'esprit et de vie, donc il n'aime pas le groupe.
Oui, c'est d'ailleurs pas forcément ce qu'on mettrait derrière le mot mélancolique. On imagine le mélancolique, c'est quelqu'un qui se perd un peu dans ses sentiments, qui a tendance à s'effondrer dans une certaine tristesse. Bref, la typologie des tempéraments
ne correspond pas à l'idée que parfois qu'on peut s'en faire.
Oui.
Mais ses faiblesses, c'est quand même il se laisse absorber par ses sentiments et ses pensées. En fait, il a du mal à agir parce qu'il veut que l'action soit parfaite. Quand c'est pas parfait, il n'agit pas. Ça le bloque. Il est plutôt pessimiste. Hein. Il s'inquiète pour des détails, sur ce souci de la perfection. Il n'aime pas trop prendre de risques et il ne supporte pas l'incertitude. Tout est un peu lié. Hein. Il se sent facilement offensé et peut avoir la critique sévère. Ce qu'on faut voir, c'est que ces quatre tempéraments sont très typés. Souvent, on peut avec le temps...
On n'est pas tout l'un ou tout l'autre.
On n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Les tempéraments peuvent être un petit peu mélangés. Hein. On peut se sentir à la fois sanguin et colérique, sanguin et mélancolique. On peut avoir un caractère dominant et des points d'ancrage sur d'autres...
Et est-ce qu'avec le temps, et en se disant qu'on travaille sur soi et qu'on se bonifie, en fait, on peut arriver à trouver un équilibre entre tout ça? Est-ce que, quelque part, le grand homme, c'est celui qui serait à l'équilibre entre ces quatre tempéraments ou pas du tout? On a une dominante et puis il faut apprendre à vivre avec.
Je crois quand même qu'on a une dominante qui... Et heureusement, parce que sinon, on serait tous pareils, non? Et dans une société, c'est bien qu'il y ait des gens différents pour se compléter.
Alors, le sanguin, troisième grand type, cherche la baseline. Il est enclin à partager ses sentiments avec les autres, mais il lui coûte de mettre la dernière pierre à chacun de ses projets. Le sanguin, même question pour ceux qui nous écoutent attentivement et qui voudraient se reconnaître. Force et faiblesse, Anne de la Doucette.
Alors, ses forces, en fait, c'est pas un joyeux de riz, mais c'est quelqu'un qui aime la vie. Il aime les gens et il veut les rendre heureux. C'est quelqu'un qui fait la cohésion dans le groupe. Il est amical, il est communicatif, il est cordial et généreux, il aime entreprendre, il aime l'aventure. Ses sens externes sont toujours en éveil. Vous savez, les sens, Louis, il est toujours à capter. C'est comme s'il avait des capteurs qui étaient branchés sur lui. Et il remarque tous les détails. La relation à l'autre est très, très importante. C'est peut-être la chose qui le motive le plus. Alors, faiblesse, c'est toujours pareil. C'est la contrepartie de ses qualités. C'est que, en fait, comme ses sens sont toujours en éveil, eh bien, il a un petit peu de mal à les contrôler. Il aime s'amuser, c'est une motivation et parfois du coup ça lui donne une espèce de légèreté, une espèce d'instabilité, une superficialité. Alors comme il aime tout ce qui est nouveau, eh ben pareil, il se lasse vite et il passe à autre chose. Il a un peu tendance à vouloir plaire, être dans la séduction et à ce que tout le monde l'aime. Donc pour un leader, plaire c'est pas forcément évident.
Puisque le but en fait de ces tempéraments, c'est de développer un leadership sur soi-même ou de devenir chacun des leaders. Vous dites pour un leader, c'est un problème. Ça veut dire quoi en fait?
Ça veut dire qu'un leader, lui, il ne doit pas chercher à plaire par son autorité, par ce qu'il dégage, par ses actes. Les gens doivent aller vers lui redonner son autorité. Là, quelqu'un qui cherche à séduire, c'est un leader qui séduit, ça veut dire qu'il manipule.
Alors, vous voyez, je précise ma question, c'est que dans le livre d'Alexandre Dany-Narvard, donc le sous-titre de, du tempérament au caractère, c'est comment devenir un leader vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, on peut être mélancolique, phlegmatique, sanguin ou pour le dernier, donc colérique, et devenir un leader.
Absolument, parce que vous verrez dans les quatre exemples qu'on verra tout à l'heure, ce sont des gens qui sont devenus des leaders, qui sont devenus des modèles de par leur comportement. Mais bon, on développe plus ou moins certaines facultés que d'autres. Et il faut quelqu'un qui est sanguin, il faut qu'il ait conscience que c'est peut-être sa fragilité et qu'il faut qu'il la travaille plus que d'autres. Alors il le sera peut-être moins qu'un phlegmatique ou un colérique dans cette séduction. Il saura que c'est sa fragilité et qu'il y a peut-être un petit clignotant rouge qui s'allume quand il sera tenté de séduire, voyez.
Je vous repose la question parce que vous y avez répondu dans la première partie, mais tout le monde n'a pas forcément suivi le début de l'émission. Chacun serait appelé, Anne, à devenir, à développer une forme de leadership, donc sur soi-même et puis autour de soi, c'est ça ou...
Eh ben, sur soi-même et surtout, moi je crois pour les autres, pour notre société, la mère de famille, c'est une leader, un prêtre, c'est un leader, il est à disposition de ses ouailles.
Une grand-mère, ça peut être un leader.
Une grand-mère peut être un leader quand elle s'occupe de ses petits-enfants, qu'elle leur fait la transmission, quand elle leur prépare un déjeuner, ben c'est une sorte d'humilité. Les deux grandes qualités du leader, c'est la magnanimité, voire grand, et l'humilité. Quand une grand-mère transmet sa connaissance dans un jardin, quand elle va cultiver son jardin, quand elle raconte une histoire, ou quand elle prévoit la grandeur pour ses petits-enfants, et quand elle leur prépare un déjeuner, ben c'est une forme d'humilité, elle se met à leur service. Je crois. Voilà, donc c'est... vraiment ça touche à petite. Alors quand on dit ça, mais on imagine un leader, un patron d'entreprise, un homme politique. Non, je crois que chacun est appelé à développer une forme de leadership au service des autres.
Dernier grand tempérament, le phlegmatique. Alors on reverra évidemment à la fin de l'émission vers un site internet et puis vers la lecture de cet ouvrage parce que c'est difficile de tout saisir au fur et à mesure. Le phlegmatique, à quoi ressemble cette personne, ses forces et ses faiblesses?
Alors le phlegmatique, il a une approche des choses qui est plutôt rationnelle ou scientifique. Il a une bonne écoute et il sait être emphatique. C'est quelqu'un qui sait bien gérer un groupe. Il a un sens profond du devoir et il aime la coopération. Il a une volonté de faire qui lui permet d'être constant, persévérant et de garder son calme. Il a, alors ses faiblesses, c'est qu'il a une réactivité tardive. Ça peut être une forme, mais elle est éphémère.
Hein. Ça veut dire quoi, une réactivité tardive éphémère, c'est...
Ça veut dire que face à des événements, il mettra du temps à réagir et parfois il n'arrivera pas à réagir, à poursuivre une réaction qui soit longue. Il a peur de faire des erreurs et il a besoin d'être sécurisé. Il est un peu casané, il aime pas trop le changement, il aime être dans le sens du courant, et quelquefois, les obstacles, ça lui paraît insurmontable. Il préfère la paix à toute éventualité, il déteste le conflit. Donc, il préfère parfois laisser des situations pourrir, que les conséquences soient beaucoup plus importantes que d'avoir pris la question ou le problème de front, comme un colérique, et d'avoir voulu gérer tout de suite le conflit et trancher. Il laissera, oui, un homme politique, ça va assez bien faire ça.
Voilà, et alors il faudra qu'on vous réinvite pour cette émission, parce que si en sortant de cette émission, chacun commence à faire le test, ça va faire une Saint-Valentin un petit peu animée. J'imagine un phlegmatique et un colérique qui sont en couple. Ça ne doit pas toujours être très simple. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour essayer de voir, en fait, à partir de ces quatre tempéraments, ce que l'on peut développer, voire, non pas rêver de devenir, mais avoir un peu de magnanimité. De grandeur de vue pour soi et pour les autres.
Présence à Moissac, 93.3.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Tempérament, comment en tirer le meilleur ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Anne de la Doucette, cofondatrice de la formation Passeur d'Hommes. Cette formation donc, qui est donnée entre autres à Toulouse en anthropologie chrétienne, cette année donc sur la paroisse du Christ au Roi. Avant qu'on voit, Anne, ces quatre grands tempéraments et la manière d'en faire quatre grands et beaux caractères, pour revenir à ma question de début d'émission, vous disiez que pour vous ça avait été une forme de révélation. Alors sans nous livrer tous les secrets de votre vie, vous en sentez déjà les effets et les vertus d'arriver à justement à avoir nommé votre tempérament et puis essayer de voir ce qu'il y avait à travailler.
Oh, il n'y a pas de secret. Les gens qui me connaissent ont tout de suite vu mon tempérament. J'ai un caractère colérique. Et pour comme les coups, les colériques, il y a deux lanternes rouges qui s'allument. C'est l'humilité, prendre soin des autres, faire attention à ne pas foncer et laisser les autres derrière soi, à ne pas comprendre qu'ils ne suivent pas le même rythme que vous, parce que tout le monde ne suit pas notre rythme. Et puis la prudence. Vous savez, la prudence, c'est pas ne pas être prudent, prendre pas. La prudence, c'est prendre le temps de délibérer, de ne pas foncer, de prendre conseil, justement, prendre soin des autres et prendre conseil autour de soi. Ne pas faire confiance qu'à soi. Savoir avoir l'humilité de demander confiance aux autres. Ça, je crois que c'est deux choses qui, chez le colique, sont primordiales. Alors, c'est pas pour ça qu'on y arrive, hein. C'est pas pour. Et puis, ça m'a appris une troisième chose dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que quand on commence à savoir qui on est et qu'on connaît les différents caractères, on arrive à voir quels sont les caractères des autres. Et on sait que, eh ben, on ne pourra pas demander à un flegmatique d'être dans la confrontation. Nous, on est dans la confrontation, c'est notre moteur, mais d'autres ne peuvent pas. Et souvent, on demande à notre entourage d'avoir des attitudes qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir. Et il faut les accepter et les accompagner dans cette fragilité, qui pour nous peut-être est une fragilité, mais pas pour eux, et qu'eux nous accompagnent dans notre façon d'agir.
Alors, vous avez introduit du coup le tempérament colérique. Si on s'appuie donc sur les quatre vertus cardinales que sont la prudence, le courage, la maîtrise de soi et la justice, vertus cardinales y compris dans la vie chrétienne. Prudence, courage, maîtrise de soi, on appelle ça aussi la tempérance, et pour le courage, la force. Donc prudence, force, tempérance et justice. Comment accompagner ce tempérament colérique que vous avez tout à l'heure décrit, réactivité, énergie, entrepreneur, enclin à la colère, voilà, à l'aise dans la direction des personnes, n'ayant pas peur du conflit. Voilà, comment accompagner ça ?
Alors, je crois qu'il y a trois vertus. Il y a la prudence, sûrement, prendre le temps de délibérer, de ne pas foncer, prendre le temps de s'arrêter. La maîtrise de soi, quand on est colérique, il faut apprendre à être maître de soi. Et puis l'humilité, aller au service des personnes, prendre le temps de faire attention aux gens qui vous entourent et aller à leur rythme et être à leur service. Ça, c'est les trois grandes, je pense, travaux à faire pour quelqu'un qui est colérique.
Alors, exemple, trouvez-nous une figure.
Là, moi, j'aime bien l'exemple de Saint Paul parce que lui, il est colérique, mais il a un caractère extrêmement
fort.
Dans
le test, il devait exploser le compteur à tempérament colérique.
Voilà, il a mis autant d'énergie à combattre le Christ qu'après annoncer la bonne nouvelle et il y a été jusqu'à donner sa vie. Et on voit au fur et à mesure de ses écrits que petit à petit, il s'adoucit, il reconnaît ses torts, il réfléchit. Donc on voit bien cette évolution du caractère de Saint Paul, mais voilà, c'est un caractère très entier. On voit bien aussi qu'à la fin, même s'il donne sa vie, il n'a pas résolu il n'est pas venu à bout de toutes ses fragilités. On ne vient jamais à bout de toutes nos fragilités. Hein. Alors, si on était tous parfaits, ça serait très ennuyeux. Donc, il y a le péché originel, donc on ne peut pas être parfait. Mais on sent qu'il y a une progression chez Saint Paul. Mais c'est un caractère extrêmement fort, extrêmement fort.
Alors, deuxième
tempérament. Meneur, c'est un meneur, hein, quand on a
vu. Deuxième tempérament, le mélancolique. Pour le redécrire à grands traits, donc une réactivité tardive, mais une grande stabilité. Il cherche la perfection dans les choses. Voilà, il aime les idées, mais parfois, il a du mal à passer à l'action, enclin un peu au pessimisme. En s'appuyant sur ces quatre vertus, qu'est-ce que vous pouvez suggérer et quelle figure pour vous vient illustrer ce travail?
Alors c'est vrai que le courage c'est difficile, c'est très difficile pour le mélancolique, le courage. Et en fait quand il doit agir, et comme c'est quelqu'un qui est plein d'idéal, il doit justement s'appuyer sur cette soif d'idéal pour avancer, pour avoir de l'audace. Vraiment le mélancolique, il faut qu'il devienne audacieux. Et on peut parler j'avais parlé de l'exemple de Maria Callas. Maria Callas, en 1949, personne ne la connaissait, et c'était une soprano, et elle a dû, il y a Tullio Serafin, qui jouait Elvira à la Scala, qui jouait El Puritani de Bellini à la Scala, sa cantatrice, qui était Elvira, qui chantait Elvira, est tombée malade. Et 8 jours avant la présentation, il va trouver Maria Callas pour lui demander de la remplacer, parce qu'il n'y avait pas de double. Et Maria Callas, c'était quelqu'un justement de très mélancolique qui aimait la perfection. Et elle va faire quelque chose qu'elle n'avait jamais pratiqué. Et pendant 8 jours, elle va s'entraîner. Et ça va être absolument un succès incroyable. C'est ce qui va lancer sa carrière. Elle va révolutionner le jeu de scène. Donc, c'est une femme qui était mélancolique, qui cherchait la perfection, qui était pleine d'idées et qui est arrivée à passer au-dessus de ses faiblesses par l'audace. Elle s'est lancée, elle s'est jetée et ça a marché.
Voilà, vous dites, son désir de voir le monde autrement doit le conduire à sortir de lui-même pour y participer.
Voilà, oui.
Il y aurait certainement bien d'autres choses à dire. Si on passe au tempérament sanguin, donc le sanguin, c'est celui qui aime les gens, qui aime les rendre heureux, qui est cordial, généreux, qui a tous les sens en éveil, mais qui peut du coup peut essayer de chercher d'abord à plaire, qui se lasse vite des choses, qui cherche toujours la nouveauté et qu'on peut considérer de l'extérieur comme quelqu'un parfois d'un peu superficiel, qui
ne va pas au bout des choses. Et ben justement, lui, il va falloir qu'il pratique la longanimité, c'est-à-dire travaille sur la longueur, l'endurance. Hein. Il doit faire attention à la frivolité. Il doit agir sous le regard de Dieu et de sa conscience. Quand il y a une difficulté, il ne doit pas la sous-estimer, parce que souvent, il la sous-estime. Et puis, sa générosité, il doit la mettre, parce que c'est quelqu'un de généreux, le sanguin, hein, il doit vraiment la mettre au service de ses passions nobles, ce côté rassembleur, ce côté gay, ce côté entrepreneur. Bon. Et puis, pour être juste, il ne faut pas être instable. Il faut qu'il vainque son instabilité pour pratiquer la justice. Alors, comme exemple, je vous donnerai peut-être l'exemple de Thomas More, qui est maintenant...
Qui est Thomas More?
Thomas More, c'était le grand chancelier d'Henri VIII. Et il avait un caractère très blagueur. Il était très... il aimait la vie, il aimait les gens. Mais il avait une qualité, c'est qu'il était constant. Il a été fidèle et endurant. Dans les épreuves, c'est souvent dans le cadre d'une épreuve que la pratique des vertus peut vraiment se mettre en place.
Sinon, naturellement, le sanguin se défilerait, c'est ça ou...
Ben oui, c'est quand vous êtes confronté à... Et là, vous avez votre conscience qui vous dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renie? Est-ce qu'on verra ça avec le pragmatique aussi? Ou est-ce que je... Non, je m'accroche à ce que je crois, j'essaie de dominer ma tentation d'abandonner.
Et alors Thomas More, racontez l'histoire peut-être?
En fait, Henri VIII, oui, s'est proclamé quand il a voulu se séparer de son ex-femme et que le pape n'était pas tout à fait du même avis. Il était furieux et il s'est autoproclamé chef de l'Église d'Angleterre, ce qui lui permettait de répudier sa femme. Et Thomas More, qui était un grand croyant, a dit qu'il n'était pas d'accord. Lui a ouvertement dit qu'il n'était pas d'accord. Et Henri VIII n'a pas du tout apprécié, l'a enfermé à la tour de Londres, dans des conditions de détention assez dures, espérant le faire changer d'avis. Il n'a pas changé d'avis, il a été fidèle dans sa foi, il a été fidèle dans ses croyances, mais il y a laissé la vie, parce qu'il a fini par être exécuté un an après. Donc c'est le patron des hommes politiques. Hein, parce que voilà, ça c'est vraiment l'endurance dans la foi, dans la recherche du bien, du beau, du vrai. Thomas More est un très bel exemple.
Donc on peut être un sanguin et devenir un grand homme politique. On
n'a
pas besoin forcément d'être un colérique.
Voilà.
dernier grand tempérament, donc le flegmatique. C'est pareil, hein, pardon pour ceux que ça lasse un peu, mais c'est voilà, de façon à ce que le plus de monde possible puisse suivre. C'est quelqu'un donc, qui a une approche rationnelle et scientifique des choses, qui a une bonne écoute, un sens profond du devoir, un sens de la coopération, une grande volonté. Voilà, mais qui a une forme de réactivité un peu tardive, qui a souvent besoin d'être sécurisé, qui aime pas trop le changement, et qui parfois peut, on va dire, mettre certaines choses sous le tapis pour ne pas avoir de problème. Alors, quels seraient les conseils pour ce type de tempérament, Anne?
Eh ben justement, il faut, ça va être surtout la magnanimité. Il va falloir qu'il voit grand et qu'il ait du courage. Courage d'affronter les difficultés, courage d'affronter les conflits. Les conflits surtout. C'est compliquant pour lui. Donc et comme il a une volonté de faire et comme il est persévérant, à partir du moment où il arrive à dominer, avoir de l'audace, c'est à la fois un bon chef, c'est à la fois quelqu'un qui va au bout de ses projets, c'est quelqu'un qui peut aller très loin, le flegmatique. Et l'exemple, un très bel exemple, c'est le professeur Lejeune. Le professeur Lejeune, vous savez, en 66, il découvre les causes de la trisomie 21, ce chromosome en plus, et il le fait pour soigner les enfants trisomiques. Et il devient très, très connu. On pense qu'il va devoir le prix Nobel de la paix. En 69, il est appelé à un congrès aux États-Unis. Et là, en se rendant sur place, il se rend compte que tous les autres généticiens veulent, en fait, utiliser sa découverte à d'autres fins, c'est-à-dire supprimer les enfants trisomiques. Et là, il a un choix. Ou il affirme ses convictions et il risque de tout perdre, ou il met ses convictions sous le tapis, comme vous dites. Et là, il a la gloire. Et très courageusement, il va dire ceci, et ça va être son acte de mort, quoi. Et ça va être fini pour lui. Il dit ceci: il faut dire clairement les choses. La qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte aux plus faibles de ses membres. Et à partir de ce moment-là, pas de prix Nobel de la paix, plus invité dans les congrès, les publics disparaissent. Et quelques années plus tard, il a un cancer. Et il meurt. Donc il y a un procès en béatification du professeur Lejeune. Parce qu'on voit où aujourd'hui ça nous mène. On est donc vraiment un eugénisme des enfants trisomiques. Donc voilà, ça c'est une belle personne. Il a eu le courage de dépasser sa crainte du conflit, sa crainte de l'opposition.
Voilà, il doit apprendre à vaincre son apathie pour construire le bien commun, dites-vous aussi. Il doit stimuler ses passions hautes et vaincre ses peurs des situations conflictuelles. Pour finir, Anne, parlons un petit peu, on ne l'avait pas forcément prévu, mais il nous reste un petit peu de temps, du rôle de la grâce dans tout ça, puisque ce Alexandre Dianine Harvard, donc, dont vous êtes inspiré, auteur, je le redirai à la fin de l'émission, d'un ouvrage du tempérament au caractère, dit que, puisqu'il est, il est chrétien, on peut aussi faire appel à la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est juste... dans ce travail, de demander à plus grand que soi de nous aider et de nous accompagner pour que ça ne vire pas au volontarisme. Comment vous expliqueriez ça?
Alors la grâce, j'aime bien la phrase de saint Paul qui dit que... Où est-ce que je la retrouve, ma phrase?
C'est pas grave, ne la citez pas, continuez.
Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi le glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est-à-dire en fait que quand on met en place les vertus, quand on travaille les vertus, qu'on considère que ces talents, Dieu nous les a donnés et qu'on les développe pour le bien, pour Dieu, pour être à son image, pour ressembler plus à son image. Dieu nous donne une force supplémentaire et l'on comprend que c'est Dieu qui agit à travers nous et plus seulement notre propre volonté. Et à ce moment-là, Dieu, cette grâce, j'avais pris l'exemple, vous savez, d'une sauce au chocolat qui se diffuse dans des profiteroles. Vous voyez, une profiterole avec de la glace. Et puis le chocolat, ça se diffuse et ça donne au profiterole toute la saveur. Et bien peut-être que la grâce, c'est ça, ça se diffuse en nous et ça donne à nos actions une autre dimension, une surnaturelle. C'est une grâce, c'est surnaturelle. Et on comprend vraiment que c'est Dieu qui agit en nous et que nous sommes qu'un outil. C'est un peu comme le maçon qui a sa pelle. Et bien nous sommes la pelle et le maçon agit la pelle. On est vraiment un outil dans les mains de Dieu et cette grâce nous permet de travailler au bien dans la société.
Vous dites cette grâce se met au sommet de la pyramide des vertus, pour reprendre l'exemple des profiteroles, et va irriguer tout le reste. Il en sera de même pour les deux autres vertus théologales, pour les trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. On peut dire que derrière, quelque part, c'est là-dessus que tout prend appui.
Absolument.
Les vertus cardinales prennent appui sur la foi, l'espérance et la charité. Eh ben, merci beaucoup, Anne de la Doucette, d'être venue ce matin. Oui, vous aviez une dernière chose à nous dire.
Et ça me sort la tête tout à coup. Oui, alors c'est pour ça que dans cette situation de cette société qui est quand même pour beaucoup désespérante, parce qu'on ne peut pas demander des efforts aux gens quand ils ne savent pas où ils vont. Moi, je trouve que le savoir que chacun, aujourd'hui, peut être là où il est, un élément bénéfique pour la société, on a chacun notre rôle dans la société, il n'y a pas de société juste sans hommes justes, à nous d'être des justes, à nous d'être des belles personnes, et on fera une belle société. Ce n'est pas les institutions, ce sont les hommes qui font les sociétés, et on a tendance un peu à l'oublier.
Voilà, un peu de magnanimité à l'égard de soi-même, devenons des Saint Paul, des Maria Callas, des Thomas More et des professeurs Lejeune. Anne de la Doucette, toujours autant d'ambition, on vous remercie beaucoup. On rappelle le titre, donc une dernière fois, de cet auteur dont vous vous êtes inspiré, Alexandre Dianine Harvard, du tempérament au caractère, comment devenir un leader vertueux. Et donc, on l'aura compris, il ne faut pas être effrayé par le mot leader. Leader, c'est pas forcément un chef d'État ou un chef d'entreprise. Merci beaucoup, Anne de la Doucette, d'être venue
Merci
ce matin.
Merci, Manuel.
Micro de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.